5 fois la France pour ne pas dire 1000 ou un infini de France possible. Si la République est une et indivisible, le peuple français est hybride et composite. Le 11 janvier 2015, la France, avec toutes les majuscules de mise, était sur les lèvres de ceux, incroyablement nombreux, qui manifestaient, les lèvres de ceux qui restaient observateurs, émus et concernés, mais chez eux, les lèvres de ceux qui ne manifestaient pas pour protester contre une unité de façade. Sur les lèvres, la France, son image, sa devise, ses histoires, ses couleurs n'ont eu de cesse d'être convoquées depuis un an, hier encore dans les dernières commémorations. La France, nous en rendons quelques nuances jusqu'à vendredi. Il est 16h, 14h, passé de 1 minute. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans les Nouvelles Vagues. Il est 14h et ces nouvelles vagues, nous pensons qu'elles ont des voix, qu'elles naissent d'êtres et de moments marquants. En fin d'émission chaque jour, nous demandons à quelqu'un de nous raconter un de ces moments-là. En novembre dernier, nous avons posé pendant 5 jours nos valises au CDI du lycée Sugère à Saint-Denis, en Ile-de-France. Alors pour ponctuer cette semaine française, c'est à ces lycéens dionysiens que nous avons demandé de raconter quelque chose de marquant. Aujourd'hui, Jodie évoque un premier cours de danse. Elle y découvre la grâce ignorée du corps d'adolescente qu'elle apprivoise encore. 5 fois la France et millions de visages et millions de voix. Visages et voix pas toujours vus et entendus dans leur complexité. Alors pour ce premier moment d'une semaine de nouvelles vagues françaises, nous offrons au moins un plateau double. Tout à l'heure vers 14h30, nous retrouverons deux photographes qui signent le projet Demi-tour de France, né en 2013, presque pile 30 ans après la naissance de leurs auteurs. Mais pour commencer, un autre duo, Bachir et Karim. Ils sont DJ, ils forment Toukadim vendredi soir dernier après le travail. Ils ont fait le chemin jusqu'à nos studios de la Maison de la Radio à Paris. Ils sont venus avec leurs diamants et deux disques vinyles parmi ceux qu'ils collectionnent et diffusent, dont ce premier titre « Allô l'agence » d'Ali Waganim.
Allô, allô l'agence, est-ce qu'il y a de la place? Allô, allô l'agence, réservez-moi une place. Je sais que je n'ai pas de chance, j'ai perdu ma jeunesse. Je sais que je n'ai pas de chance, j'ai perdu ma jeunesse. Une fille à la drogue, préparez-moi le billet pour cet après-midi. Ça fait longtemps à Paris, mes cheveux sont tout gris. Mais je ne peux plus résister, je veux la retrouver. Je ne peux plus résister, je veux la retrouver. Nina Jira Shaluya, Nina Jira Shaluya.
Allô, allô, l'agence.
On commence par de la musique, Karim et Bachir, parce que c'est l'un de vos moyens d'expression. Vous collectionnez des disques vinyles du Maghreb et vous les jouez dans différents lieux depuis des années. Votre duo de DJ Toukadim produit aussi une émission de radio tous les premiers jeudis du mois à 20h sur Radio HDR, une émission à réécouter par exemple sur SoundCloud. Et on commence aussi par de la musique parce que la voix qu'on vient d'entendre demande en français dans le texte s'il y a de la place et qu'il me semble que ce n'est pas sans rapport au moins symbolique avec la discussion du jour. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être là.
Bonjour.
Bonjour.
On commence une semaine thématique sur la France, un jour qui est devenu emblématique, pour ne pas dire totem, le jour du 11 janvier, parce que des manifestations rassemblaient plusieurs millions de Français le 11 janvier 2015 dans la rue et que le drapeau, les valeurs, le nom du pays étaient brandis. Est-ce que vous vous souvenez de ce 11 janvier d'il y a un an ?
Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se souvient pas de ce jour-là et de l'endroit où il était quand il a appris qu'il y avait eu ces attentats. Donc oui, je me souviens très bien de ce jour-là, je me souviens de où j'étais. Voilà.
Et vous étiez où ce 11 janvier,
le jour de manifestation.
Le jour des manifestations, ben, moi j'étais chez moi. Donc je ne suis pas allé manifester ni revendiquer quoi que ce soit dans la rue.
Pareil pour moi. On se souvient, c'est vrai que ça cristallise plein de choses en fait ce jour-là, mais pour le coup, pas dans la manifestation non plus.
Et dans quoi alors ?
Dans l'observation de la manifestation.
Et quel genre d'observation ? C'était vous regardiez sur Internet, vous regardiez à la télévision, vous écoutiez la radio ?
Bah moi pour le coup c'était télé, beaucoup, toutes les chaînes d'infos en continu, et puis pour peu on est un peu connecté, donc on voit aussi sur Twitter qu'est-ce qui se passe, et donc ouais c'était plus sur ces médias-là.
Et vous avez observé toute la journée des manifestations se faire ?
Non, moi j'étais au travail, et ensuite, je suis rentré chez moi, j'ai eu des copains qui allaient à la manif, parce que bon je suis de Rouen, donc il y avait une manif à Rouen aussi, enfin, ça a suivi, enfin toute la semaine il y avait des rassemblements. Et donc, non, moi, j'avais pas forcément envie d'être dans la rue ce jour-là. D'une manière ou d'une autre, on a tous été touchés et puis questionnés par ce qui venait de se passer. Après, j'éprouvais pas le besoin d'aller dans la rue.
C'était quoi le sentiment qui prévalait le 11 janvier, pour vous deux ?
Bonne question. Moi, est-ce qu'on va me demander encore de montrer patte blanche ? C'était ça, en fait.
Tout de suite, dès le 11 janvier ?
Ah, mais dès qu'il se passe quelque chose, en fait. Mais même maintenant, actuellement, c'est-à-dire, c'est encore super actuel, c'est de se dire, est-ce qu'il va falloir encore se justifier ? Est-ce qu'il va falloir encore montrer patte blanche ? Et comment se prémunir de ça, quoi.
Et vous, Karim ?
C'est vrai que cette forme d'injonction qu'il y avait pour les musulmans ou les gens d'origine maghrébine, enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, hein, de dire ce que la majorité voulait entendre, du coup, moi, ça m'a un peu freiné, justement.
C'était quoi ce que voulait entendre la majorité ?
Bah, en tout cas, peut-être pas la majorité, mais ceux qui avaient la voix, ceux à qui on donnait la parole, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que tous les musulmans descendent dans la rue pour manifester leur désapprobation, leur rejet de ce qui venait de se passer. Mais on est français. Donc après, pourquoi nous interpeller, soit en tant que musulmans, soit en tant que maghrébins, soit en tant que... Et puis souvent sur les mêmes sujets, quoi. Donc c'est vrai que c'est force de rester neutre, parce qu'à la limite, s'il y avait eu plus de spontanéité, peut-être qu'on aurait eu envie de descendre dans la rue aussi, j'en sais rien. Mais là, on nous demandait de pas l'être, justement, presque. On nous enlevait cette possibilité d'être nous-mêmes, quoi, presque.
Vous dites que vous aviez une sorte d'injonction venue de l'extérieur et en même temps, vous dites, Bachir, que c'est une injonction presque que vous faisiez à vous-même en disant « Est-ce que je vais devoir me justifier ? Est-ce que je vais devoir montrer patte blanche ?» comme si vous n'attendiez même pas que cette injonction elle vienne de l'extérieur.
Parce qu'on sait très bien qu'elle va arriver. En fait, on a cette intériorisation, enfin je parle pour moi, du stigmate qui fait qu'on est déjà dans de l'appréhension, dans se dire « Bon, voilà, de l'appréhension et en même temps, comme disait Karim, ce côté un peu neutralité, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on nous demandait, mais montrez-nous que vous êtes humain, vous avez quand même une sensibilité, vous êtes parti manifester, le fait de ne pas aller manifester, c'est quelque chose qui prouve que vous n'êtes pas humain. Enfin, j'avais le sentiment de, comme dit Karim, on est français, que les gens le veuillent ou non, au final, hein, on fait partie du décor. Et faire partie du décor, c'est pas forcément aller là où on nous attend. Et cette injonction-là, moi, je la trouve encore plus forte à l'heure, plus que le 11 janvier dernier, 2015. Je la trouve actuellement insoutenable.
C'est une injonction qui passe par quoi ? Parce que vous avez tous les deux parlé de médias ou de personnes qui avaient la voix. Bon, ça, c'est une chose. Est-ce qu'il y a des injonctions qui passent par des choses qui sont plus quotidiennes, qui sont peut-être moins médiatiques, qui sont plus directes ?
Oui, clairement. J'ai un exemple, hein, c'est-à-dire que le lendemain des manifestations, j'avais le sentiment qu'il y avait aussi, que ce soit dans le contexte du travail, amical ou relationnel, de se dire « t'étais où hier ?» T'as fait quoi ? T'es parti manifester ? Non, t'es pas parti manifester ? Ah bon, et pourquoi t'es pas parti manifester ? C'est quoi ? Et c'est quelque part, est-ce que t'as un cœur ? T'as pas de cœur ? T'es content de ce qui s'est passé ? Et c'est directement de la suspicion. Et c'est cette suspicion-là que je trouve que notre neutralité, elle est importante par rapport à cette suspicion-là. Enfin, je la trouve essentielle même.
Elle fait quoi, votre neutralité ? Vous dites, je suis neutre, je ne manifeste pas, c'est-à-dire je ne réponds pas à une injonction de non-spontanéité ?
Je répondrais comme si c'était beaucoup plus instinctif. Mais quand c'est une injonction, je réponds pas. Et la neutralité, c'est de se dire, est-ce que je peux m'accorder aussi le temps de la neutralité ? Parce que je pense que c'est ce qu'on se dit aussi. Là, on est dans des célébrations, anniversaires et compagnie, mais qu'on s'accorde rarement le temps. Quand je parlais de... c'était le dimanche, les manifestations, d'être devant des chaînes d'infos en continu, à un moment de se dire, ouf, moi, je sais que cette semaine d'après, j'ai arrêté tout média, quoi. Parce que je me suis dit, il faut... Il faut qu'on prenne cette distance-là, et je pense que cette neutralité-là, elle permet justement à un moment d'avoir une certaine distanciation.
Et avec le temps, c'est quelque chose qui a changé dans les semaines qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi, justement le fait de pas avoir manifesté le 11 janvier ou autre d'ailleurs, parce que là on en fait une date un peu clé, mais est-ce que vous avez changé d'avis dans les semaines qui ont suivi?
Pas trop. Par contre, moi c'est un peu d'optimisme dans tout ça. C'est que je trouve qu'il y a des gens qui ont vite compris que c'est pas si évident qu'il fallait aller dans la rue ce jour-là. Après, la question qu'il y a derrière, c'est à quel jeu on joue aussi, quoi. C'est-à-dire, qui nous demande d'aller dans la rue, pour quelle raison, et puis, et puis aussi, il faut remettre ça dans un contexte, ça fait quand même des années que la communauté, je dirais, les gens issus des anciennes colonies, pour taper large, sont montrés du doigt toujours sur les mêmes sujets. Et là, de nous demander, nous, de prouver qu'on est des bons citoyens, alors qu'on fait tout pour dire que telle ou telle communauté est dangereuse ou questionne l'État français ou la France, je pense qu'il y a des gens qui se rendent compte de ça aussi, qu'il y a un jeu politique derrière, qu'il y a des médias qui doivent remplir aussi leur quota de programme. Et que les sujets faciles, il y en a plein. Et là, ça dépasse le cadre des gens d'origine maghrébine. Il y a plein de gens, moi, que j'ai rencontrés qui ont un regard critique sur tout ça.
Vous diriez que la question de se sentir français, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup dit le 11 janvier, et puis évidemment après, et puis aussi après le 13 novembre, c'est une non-question, c'est une question à laquelle vous n'avez pas à répondre, c'est une question que vous ne vous posez pas, c'est une question qui n'a pas lieu parce que, de fait et administrativement, vous êtes français, ou ça reste quand même quelque chose qui vous questionne?
Moi, j'espère que ça nous questionnera toute notre vie. Et j'espère que ça questionne chaque Français toute sa vie, de se dire, ça veut dire quoi être français? Mais avec un angle de vue, ou des angles de vue, en fait. Moi, c'est ce qui me dérange le plus. C'est pour ça que je suis aussi assez content d'être sur France Culture, sur une semaine qui traite de la France, et que nous, on soit invités, parce que... Quelque part, nous, on se pose ces questions-là au quotidien. Je veux dire, avec Karim, on fait des kilomètres pour aller jouer des disques et compagnie. Et à chaque fois, on est sur ces thèmes-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et je sais pas si tout le monde se prend la tête comme ça ou pas. C'est une question qu'il faut poser. Mais pour moi, être français, c'est aussi savoir accepter toutes ces identités-là. Pour moi, le luxe d'être français, c'est de pouvoir, un, avoir conscience de mes identités multiples, et deux, de pouvoir les assumer au jour le jour.
C'est quelque chose qui est compliqué en ce moment?
C'est pas trop compliqué, en fait. Je veux dire, moi, je suis né ici, d'une manière ou d'une autre, je serai français toute ma vie. Après, comme chaque Français, je pense qu'on a une idée de ce qu'est la France, de ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et puis du coup, on gamberge chacun, je pense, qu'il soit originaire d'Évreux ou d'Alençon, ou dont les parents soient originaires d'Afrique noire. Je pense que chacun... à sa propre gamberge concernant la France, et puis
là où je suis pas,
je suis un Français parmi d'autres, quoi, voilà, point.
Moi j'ai le sentiment, au contraire, là je serais moins optimiste que Karim, mais moi je pense qu'au contraire c'est des questions qui deviennent de plus en plus récurrentes, qu'on nous demande toujours, plus ça va, plus je sens de en gros, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de neutralité, du fait d'assumer d'être français, de se dire pour moi être français c'est comme si je respire, quoi, c'est, je fais partie de ce décor-là, et qu'au final plus ça va, plus on me dit non mais t'es vraiment sûr de faire partie de ce décor-là, et puis le fait de vouloir tant faire partie de ce décor-là, est-ce que c'est quelque chose qui, tu ne nous caches pas quelque chose derrière, ça c'est quelque chose que moi je ressens de plus en plus.
Ce que je veux dire par là, c'est pas que je suis optimiste, hein. C'est juste que pour moi, c'est limite de plus en plus simple. Parce que justement, il y a tellement, je dirais, de phases ou de situations du quotidien où on sent que les gens, ils se prennent la tête, que limite, moi, ça me permet de me clarifier ma position, je dirais. C'est-à-dire que c'est un peu décider de s'en foutre, quoi.
Et en même temps, c'est étrange d'avoir à prononcer même ces mots-là, de dire clarifier une position, alors que être français est une décision administrative, enfin c'est un fait administratif, et il n'y a pas de position en fait à avoir sur le fait d'être français. Donc vous vous retrouvez à l'aune du 21e siècle à faire comme des choix ou à avoir à prendre position sur des questions qui n'en sont pas, ce qui est quand même une situation étrange.
étrange, si on veut. C'est-à-dire que ça prouve une fois de plus que c'est pas parce qu'il y a une démarche administrative ou une déclaration ou une acceptation administrative que ça va de sens. Vous évoquiez tout à l'heure le fait de repositionner des valeurs. Pareil, ces valeurs, elles sont très belles, mais si elles sont pas pleines de sens derrière, elles n'ont pas forcément de force de frappe. Et là, c'est la même chose qui joue, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir les papiers, mais que si à côté de ça, on vous rabâche à chaque fois que montrez pas de blanche, s'il vous plaît. Ah, vous avez mangé halal aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, toutes ces choses-là qui sont anodines, hein, mais qui ponctuent le quotidien. Au final, elles enlèvent le sens de cette première démarche administrative ou de cette carte d'identité, en final.
Il y a le week-end du 11 janvier, la journée du 11 janvier, des portes ouvertes dans les mosquées françaises pour un thé de la fraternité pour, je cite, empêcher les amalgames. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Moi, j'ai pour habitude de dire que chaque fois qu'on dit ne tombons pas dans l'amalgame ou faut pas faire d'amalgame, ben on fait déjà un amalgame à la base. J'ai toujours l'impression que quand on dit ça, ben on montre déjà quand même des gens en disant attention, faites pas d'amalgame. Et qu'au final, ben c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, hein, je suis le premier à dire qu'il faut montrer pas de blanche. Donc là, ouvrir les portes et offrir du thé, c'est aussi ça. Et je pense que chacun fait avec ses moyens, chacun fait avec ses... Après, les mosquées qui ouvrent leurs portes... J'ai pas forcément d'avis, hein, mais...
Surtout que je pense qu'elles sont ouvertes toute l'année.
C'est la com, ouais, en fait, voilà. qui est intéressante. C'est pas tant la démarche. Ils pourraient faire ça, je sais pas, pour l'anniversaire de la mosquée qui a été créée, ou je sais pas, ou se dire, tiens, dans la ville, il se passe un truc. Là, on le fait à ce moment-là, parce que c'est des stratégies de communication, et qu'il va falloir... Puis il y a d'autres choses qui jouent, à mon avis, aussi, dans ces moments-là, quoi.
En vous demandant à vous ce que vous pensez de portes ouvertes, de mosquées, alors que rien n'indique, ni l'un ni l'autre, que vous soyez lié à la religion musulmane ou lié aux mosquées, est une question étrange que j'aurais presque pas à poser, en fait.
Non, mais c'est ça. En fait, s'il y avait pas eu, pour moi ça a joué, mais s'il y avait pas eu les années Sarko et puis ce qui se passe en ce moment, on sera certainement pas aujourd'hui avec vous. C'est parce qu'aussi le travail qu'on fait autour de notre démarche musicale et tout ça interpelle et puis limite s'entrechoque avec ce qui se passe en ce moment. Pourquoi nous demander ça à nous, plus qu'à un fermier de la Beauce, quoi.
Là, j'ai le sentiment aussi que tous ces événements-là font que maintenant, on nous demande d'avoir un positionnement et un avis sur tout. Et quand on a envie de dire « Attendez, j'ai déjà envie de comprendre avant d'avoir un avis », c'est plus du tout le temps. Et moi, parfois, j'ai envie de me dire maintenant, faut s'accorder aussi le droit de dire « Bah là, je sais pas » ou « Là, j'ai pas d'avis ».
Vous dites, vous parlez de votre travail musical ou du travail autour de la musique. J'ai présenté brièvement en quoi ça consistait. Collectionner, jouer des vinyles ou des vieux vinyles venus du Maghreb, c'est donc aussi une manière de regarder un patrimoine musical, de regarder un patrimoine culturel, de se pencher y compris sur une histoire. Vous jouez entre autres dans des endroits où il y a des personnes un peu plus âgées, pour ne pas dire beaucoup, beaucoup plus âgées que vous. Quelle est l'image de la France qu'il vous renvoie quand il vous renvoie une image de la France?
Donc là, on parle du café social de Belleville, qui est pour les auditeurs qui ne le savent pas, un café social, enfin qui est un café et qui a des travailleurs sociaux aussi, qui est là pour accompagner ces personnes qu'on appelle les Chibani facilement. Et donc, on les aide dans leur démarche administrative et c'est aussi un endroit où on peut prendre un verre. Et que ce que ces personnes nous renvoient de la France, enfin moi, ce qui me renvoie de la France, moi, après je sais pas, Karim aussi, c'est une part d'oubli. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on a oubliés, c'est ce qui me renvoie, moi, de leur côté, ce qu'ils ont vécu en France. Deux, beaucoup de dignité. Je pense que c'est des gens qui ont beaucoup de dignité aussi. Et puis, une joie de vivre. Parce que quand on joue là-bas, nous, on se prend une énergie qu'on se prend nulle part. On pourrait faire des festivals avec 15 000 personnes, on n'a pas ce qu'on ressent à ce moment-là, et on ressent de la solidarité.
Entre eux, vous voulez dire ?
Entre eux, avec nous, et quelque chose qui fait corps et qui dit que la France est aussi ce pays-là, quoi, avec de la solidarité, parce qu'il n'y a pas que des gens issus d'Afrique du Nord, on a un peu tout le monde, et il y a un mélange qui se fait. Et je pense qu'il y a, y a ce que nous, on recherche aussi dans toutes ces valeurs de la République, quoi.
Vous retrouvez presque les valeurs de la République française dans un café, à Belleville, quartier populaire, à Paris, qui s'occupe de personnes qui ont migré en France il y a bien des années et qui aujourd'hui, constituent des dossiers administratifs pour faire valoir leurs droits. C'est un détour historique qui est assez intéressant en même temps.
Tu parlais des valeurs de la France. C'est vrai que liberté, égalité, fraternité... Moi, il y a deux, trois endroits où vraiment je le ressens. C'est dans le foot. Mais le foot du dimanche, quoi.
C'est quoi le foot du dimanche ?
Bah, le foot du dimanche, c'est le foot sans caméra, sans fric, sans... Voilà, c'est où n'importe qui, de n'importe quelle classe sociale, peut se retrouver. Et puis, il y a de la solidarité qui se crée entre les gens parce qu'ils apprennent à se connaître. dans des endroits comme le Café Social, où justement, là, on a des gens qui n'ont plus rien à gagner, ni à perdre, qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là, et puis envie d'échanger, de partager, d'être ensemble. Et ce qui fait que la solidarité, elle est naturelle. Et ça, moi, en tant que Français, bah, je le ressens de moins en moins dans le pays où je vis, quoi. Et d'aller dans des endroits comme ça et de ressentir ça, eh bah, on se dit, ouais, bah, limite, ces gens-là se sont appropriés les valeurs de la France, quoi.
Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on ressort, on a de l'énergie, mais pour un trimestre, quoi. Et ça, pour moi, ça, c'est plutôt optimiste. Ça, moi, c'est des choses dans lesquelles je me retrouve et je me dis, qu'est-ce que ça fait du bien.
Et ces vieux hommes ou ces vieilles femmes qui vous parlent, ils utilisent ce mot, ils parlent de la France, ils parlent de ce pays-là, ils parlent de la manière dont ils se le figuraient il y a des années lorsqu'ils l'ont rejoint.
Ils parlent plus de leur parcours, ils parlent aussi de leurs problèmes super actuels, hein, parce qu'il y a des gens qui habitent dans des chambres d'hôtel complètement insalubres, et pour le coup, ils sont vraiment aussi dans du quotidien.
Ce qui est aussi la France.
Aussi, exactement, mais pas forcément dans le côté symbolique. C'est vraiment pas la France, j'en attendais. À ce propos, d'ailleurs, il y a un très beau recueil qui a été fait par eux, avec la BNF qui a été édité, où ils racontent justement leurs envies, ce qu'ils avaient pu projeter. Moi, je pense qu'ils renvoient quelque chose de très français, mais en même temps quelque chose de déraciné, douloureux. Vraiment, et ça c'est quelque chose qui est tout le temps, c'est quand on passe des morceaux, on sent que eux les ont vécus, pour peu ce morceau traite de l'exil, ça va se mettre à pleurer, mais derrière on va remettre un morceau qui va être plutôt dansant et tout le monde va se lever, tout le monde va danser, mais c'est plus des parcours en fait qui racontent qu'une idée globale de la France, je pense.
Vous êtes venu avec deux disques, un premier disque qu'on a entendu tout à l'heure, il s'agissait de quoi ?
Ali Awagnoun, donc c'est un chanteur kabyle, et donc il chante en français et en kabyle sur le morceau. Puis bon, bah, il est quand même assez révélateur de ce que, je pense, une grande partie de la génération des Chibani, dont parlait Bachir tout à l'heure, a vécu à l'époque où ils sont arrivés en France, quoi.
Et, c'est un morceau qui s'appelle Allô l'Agence.
Allô l'Agence, où l'idée, c'est de rentrer au pays, parce que ça y est, on a assez donné, on a envie de retrouver les nôtres, et puis...
Et puis on a une condition sociale qui, voilà. Est un petit peu, qui laisse à désirer.
Voilà.
Ouais.
Et voilà quoi, puis en même temps c'est rigolo de voir que, enfin rigolo, je sais pas si c'est rigolo, mais de voir qu'il le chante en français aussi, donc ça s'adressait aussi pas que, je pense, toute cette discographie de l'époque ne s'adressait pas forcément qu'à la communauté maghrébine, majoritairement elle a été écoutée par les maghrébins, et qui est peu sortie de la communauté maghrébine, mais quand même. Il y avait aussi une démarche vers l'extérieur, quoi.
C'est ce qui nous plaît aussi beaucoup dans ça. Dans les deux morceaux qu'on a choisis, c'est des morceaux qui sont produits en France. Donc c'est des purs produits français, de maisons d'édition françaises, donc qu'on a pu avoir à Marseille, à Lyon ou à Barbès. Et donc ça fait partie, qu'on le veuille ou non, de la culture française. Et c'est pour ça qu'on les a choisis.
Pourquoi est-ce que vous prenez le soin de dire qu'on le veuille ou non ?
Bonne question. Parce que je pense que c'est pas forcément acquis. Je pense vraiment que c'est pas acquis que Ali Awagnoun et que Tazi fait partie du patrimoine culturel français. Ça, je pense pas que ça. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, totalement. Mais en tous les cas, moi, dans ce que je vis, dans ce que je vois pas des gens me parler d'artistes comme ça en disant ah oui, la production de Barbès dans les années 50, 60, 70 est exceptionnelle et qu'elle a créé quelque chose en France.
Évidemment, je saute sur l'occasion de vous poser cette question-là, sur cette précision de langage, parce que vous faites aussi un acte de redécouvrir un patrimoine français, produit en France, comme vous le dites, qui n'est pas un patrimoine qui est transmis, par exemple, à des jeunes gens qui sont nés ici, en France, et qui est un patrimoine qui nous concerne tous, mais peut-être les concerne eux aussi. C'est l'un des sens du travail que vous faites ?
Bah, en fait, ça,
Karim,
c'est en train de prendre forme, je dirais. Enfin, à la base, on est DJ, chacun en avait plus ou moins un type de son qu'on passait. C'est vrai qu'on aime la musique maghrébine, mais on n'en passait pas beaucoup dans nos sets. Et c'est en discutant puis en jouant ensemble qu'à un moment donné on s'est dit tiens pourquoi pas faire une émission de radio autour des vinyles qu'on avait du Maghreb. Après il s'avère que ça interpelle plein de gens, mais aussi parce que je pense que il y a plein de gens qui déplorent peut-être le climat actuel et tout ça et qu'ont envie de découvrir ce patrimoine là mais sans forcément avoir des origines maghrébines. Puis il y a aussi tous les gens d'origine maghrébine à qui ça fait plaisir de voir ce patrimoine mis en avant. Et puis, on n'est pas les seuls.
Et puis, même égoïstement, nous, c'est-à-dire que nous, ça nous fait du bien aussi de se dire, bah tiens, c'est des productions françaises. Quand je parlais tout à l'heure de légitimité ou de se dire, bah j'ai plus besoin de montrer patte blanche, je pense que ce genre d'initiative-là, où nous, à chaque fois qu'on découvre des disques qui sont produits ici en France, on se dit, ok, bah notre place, elle a un sens.
On termine avec quoi comme disque ?
On termine avec Tazi, Tazi et le morceau, il s'appelle Bria. Donc ça, c'est production lyonnaise. Donc lui, il est retourné vivre en Algérie maintenant. Et le morceau s'appelle Bria, qui signifie la lettre. Et où il raconte justement qu'il reçoit une lettre chez lui. C'est son père qui lui écrit d'Algérie, qui lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous as oubliés. J'espère que tu vas bien et je t'aime. »
Écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux.
Tazi, musique choisie par Bachir et Karim du duo Toukadim que nous rencontrions vendredi dernier pour ouvrir cette semaine la France. Je rappelle que vous pouvez écouter leur émission consacrée au vinyle de musique maghrébine sur SoundCloud et les écouter tous les premiers jeudis du mois sur Radio HDR. À ces deux voix, nous voulions ajouter pour commencer cette semaine thématique autour de la France deux autres voix, Marie Boutier et Anouk Lemarquis. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bienvenue, c'est un concert de voix féminines. Votre projet photographique Demi-tour de France donne à voir le pays en 11 séries d'images pour l'instant, parfois habitées d'humains, parfois pas, beaucoup de bâtiments, beaucoup de routes, quelques écrans, quelques corps, quelques fêtes, par toujours joyeuses. Et le titre de ces séries forme un poème qu'on peut lire comme ça. Americana, salle des fêtes, le turfu, samedi soir sur la terre, la fête en plus, carnet de campagne, la topologie du vernaculaire, romance, les ruines modernes, la mythologie des pavillons et highway. Alors on aura l'occasion de revenir sur ces différentes autoroutes poétiques ou non, mais puisqu'on parlait avec Bachir et Karim de Toukadim de ce jour du 11 janvier, date symbolique à laquelle nous commençons cette semaine la France, vous souvenez-vous de quel endroit vous étiez ce 11 janvier 2015?
Oui, moi je m'en souviens, enfin, j'avais un repas et je suis sortie dans la rue, je me suis retrouvée projeté en plein dans la manifestation, alors qu'au départ je pensais pas forcément y aller. Et tout le chemin, enfin, pour rentrer chez moi, en fait, j'ai suivi le flux des manifestants, et du coup j'avais un regard un peu distant extérieur tout en étant complètement projeté à l'intérieur, donc c'était
là, mais pas exactement là, en tout cas là, mais attrapé au vol, cette manifestation. Et vous?
Je me souviens, je sortais de chez ma sœur Claire et je voulais quand même participer à cette manifestation, mais j'étais pareil, très très éloignée, et je me suis vraiment laissée en fait emporter plus par la foule, et voilà, et j'ai marché comme ça pendant une heure avec eux, et puis après je suis partie chez moi comme ça.
Quel sentiment prédominait pour vous deux à ce moment-là?
C'était assez étrange quand même, en tout cas le jour de cette manifestation, comme il y avait vraiment un élan en tout cas commun, on avait vraiment l'impression d'appartenir à quelque chose de collectif, ouais, qui est quand même assez rare, qui n'existe pas et de tous les jours comme ça, et donc c'est quand même assez...
Ça forme une fratrie en fait, je trouve, qu'on retrouve dans peut-être dans le sport, des choses comme ça, c'est marrant, mais oui, c'est quand même un élan d'amour, je trouve.
Qui vous avait marqué?
Ouais, ça m'a marqué, en fait. C'est ça qui m'a marqué. C'est non pas la tristesse, non pas tout ça, mais plus un élan de fraternité, en fait.
J'ai dit tout à l'heure, oui, je vous en prie.
J'ai mis énormément de temps à rentrer, parce qu'en fait, le chemin pour rentrer chez moi prenait exactement le chemin du parcours. Donc c'est vrai que j'étais vraiment propulsée à l'intérieur. Fin.
J'ai dit tout à l'heure que le mot « la France » et les idées rattachées à la France étaient sur toutes les lèvres. Est-ce que vous y avez pensé singulièrement ce jour-là? Et est-ce qu'il était sur vos lèvres à vous, ce mot-là, Anouk?
Pas forcément, en fait. Donc,
Et vous, Marie?
Non, c'est pas le premier mot qui est venu à l'esprit, non.
Et pourtant, c'est un mot que vous utilisez dans votre projet « Demi-tour de France ». C'est un mot qui s'est imposé dans le titre de cette série photographique.
Au départ, « Demi-tour de France », c'est plus le nom d'une exposition qui est petit à petit devenue le nom de notre projet global. Parce que notre terrain d'étude et là où on photographie la France au final. Donc,
oui, c'est partir sur les routes en fait, et c'est notre territoire, et c'est arpenter les différentes routes nationales, etc. Et oui, en fait, ça pourrait être un demi-tour d'Amérique, ça pourrait être un demi-tour mais on a choisi notre territoire, c'est donc la France.
Parce que au départ, on est vraiment parti sur cette idée de tourisme du quotidien. Donc petit à petit, au départ, ça a commencé par les périphéries de Paris, et on est parti.
Qu'il y avait autour de nous.
On est parti un peu de plus en plus loin pour au final partir vraiment sur toutes les routes de France. Donc on n'a pas encore tout traversé, parce que ça peut prendre toute une vie. Mais on a quand même fait presque un demi-tour l'été dernier. Et du coup, c'est vrai que tous ces paysages qu'on traverse, oui, c'est la France, mais au final, on n'est pas sur... on n'a pas cette idée en tête à chaque fois.
Oui, on pourrait travailler. Ce voyage en France, ça a été quelque chose, une vraie exploration, parce que peut-être que c'était plus dur que d'aller à l'étranger, faire des reportages, puis revenir. Parce que je savais pas, au fond, qu'est-ce que j'allais photographier. Je savais que je venais de cette sous-préfecture, que je voulais écarter les grands centres-villes, les banlieues, c'était pas mon truc, même si je... Bon, voilà, c'était plutôt un peu d'aller voir qu'est-ce qui reste du reste. Mais à un moment donné, je suis resté à Berck, et je me rappelle, j'ai photographié la plage. Mais je me suis dit, mais ça sert à rien, parce que la plage, elle va pas bouger, quoi. Alors qu'est-ce qui va bouger? Le monument aux morts? Oui et non. Donc c'était vraiment une... Et puis j'ai trouvé tout doucement, comme ça, des choses, des boutiques, des coiffeurs, des choses, des aménagements qui allaient se faire. Au départ, comme je le dis, je connaissais mieux Djibouti que la Meuse. Mais depuis, je connais bien la France maintenant. Le problème, c'était qu'est-ce que je raconte, moi?
Le problème, c'était qu'est-ce que je raconte, moi, dans la voix de Raymond Depardon. Alors évidemment, quand on parle de photographie et de territoire français que vous arpentez, tel que vous le disiez à l'instant, Anouk et Marie, on pense à ce projet et à ces photographies et à ces images de Raymond Depardon. C'est une archive tirée de l'émission Humeur Vagabonde au micro de Kathleen Evin, diffusée sur France Inter en 2012. Est-ce que vous êtes posé la question en ces termes-là? Le problème, c'est ce qu'on va raconter en faisant des photographies de la France?
On se le pose à chaque fois, en fait. À chaque fois qu'on part, il y a toujours cette question, qu'est-ce qu'on montre, pourquoi. Et après, il y a aussi quelque chose de très instinctif, quand on est sur les routes. Et on s'arrête parce qu'il y a quelque chose qui a attiré notre regard. Mais c'est vrai qu'après, quand on retravaille les photographies, quand on archive ou qu'on édite des photographies, on se pose toujours la question de qu'est-ce que cette photo raconte. Qu'est-ce qu'elle raconte du territoire français? Et c'est pour ça qu'après, on a travaillé petit à petit sur ces formes de séries, parce que c'était important pour nous d'avoir un discours sur ces photos. Une photographie marche avec d'autres photographies. Donc à chaque fois, oui, on se pose la question. Et après, il y a l'autre question quand on est sur les routes. La question de la rencontre aussi, et c'est les gens qu'on rencontre qui, eux, nous racontent aussi une certaine histoire de leur territoire. Donc il y a vraiment aussi cette question de la mémoire du lieu qui arrive.
Oui. Bah, oui, j'allais ajouter qu'on rencontre les gens, en fait, la dernière fois qu'on a été, par exemple, au Mans, qui est l'une de nos villes étapes, qu'on aime beaucoup, en fait. Voilà, on va dans un bar ou ailleurs, et on se pose et on demande en fait aux habitants de cette même ville quels est leurs endroits, en fait, ce qui les marque, hein, Et c'est hyper important en fait pour nous de s'apprivoiser en fait la culture en fait des gens qui vivent à cet endroit précis. Et voilà, enfin, c'est
mais du coup, enfin, souvent on part, enfin, sur cette question de l'échelle du grand territoire, enfin, aussi tout ce qui est l'architecture vernaculaire des lieux, et petit à petit, par la rencontre, on arrive dans la question de l'intime, donc quelque chose de l'ordre plus sociologique et plus émotif, et qu'on recherche de plus en plus en ce moment. C'est vrai qu'au départ, quand le projet a commencé, on est vraiment parti sur les routes avec cette idée presque, enfin, de photographie américaine, un peu de photographie de paysage, parce que c'est quelque chose qu'on a en commun, ce goût pour la photographie américaine de paysage. Et en fait, la rencontre avec l'autre, qui, enfin, est au final ce qui constitue le collectif, est de plus en plus intéressante. Et c'est là où, en fait, on commence à raconter quelque chose.
Oui, j'ai précisé en introduction que vos photos sont tantôt habitées, tantôt pas, et qu'il y a vraiment nombre de photographies qui montrent des bâtiments seuls, voire des bâtiments délaissés, voire des bâtiments en ruine. Ça veut dire que les humains sont arrivés petit à petit dans cette série de photographies ?
On va dire qu'ils sont pas derrière, mais c'est eux qui...
De toute façon, l'humain qui soit présent sur la photo ou qu'il n'y ait pas est toujours quelque part présent, parce que même quand on photographie des bâtiments délaissés ou des architectures, on a toute une série aussi sur les salles des fêtes par exemple, ou sur les architectures de municipales, l'humain est là, parce que c'est quand même aussi ce qui constitue les formes d'habitat, la manière d'aménager l'espace, et donc ça raconte quand même quelque chose sur comment l'humain s'inscrit dans un territoire, quelles sont ses pratiques du territoire. Enfin, donc c'est vrai qu'une salle, une MJC vide raconte quand même quelque chose sur l'humain, même si l'humain n'est pas forcément là. Et après le portrait arrive de plus en plus dans notre travail. C'est vrai qu'au départ il n'était pas forcément présent, mais au bout d'un moment, à force de rencontrer les gens, à force d'écouter les histoires qu'ils avaient à nous raconter, on avait envie qu'il soit présent dans les séries.
Puisque vous reprenez cette question-là de Raymond Depardon, qu'est-ce qu'on raconte ? Et vous dites c'est une question finalement qu'on se pose à chaque fois qu'on édite, qu'on produit, qu'on photographie ou qu'on archive des images. Au final, est-ce que vous avez l'impression de raconter quelque chose de la France de 2013, 2014, 2015, puisque ce sont des photographies qui datent de ces années-là ?
Elles datent de ces années-là, mais elles pourraient dater d'avant.
C'est intemporel, en fait. Mais c'est comme les lieux, en fait. C'est pas, il y a des photographies, on pense, enfin, souvent, on l'a dit, que c'est pas, finalement, la, enfin, ça peut être ailleurs, en fait. C'est une France, ok, mais ça peut être, je sais pas, moi.
Non, mais c'est vrai que, enfin, à chaque fois qu'on a présenté.
C'est intéressant aussi.
Présenté des travaux, enfin, qu'on a des expositions, comme les gens disent tout le temps, ah, mais ça me rappelle un autre lieu. Donc, il y a vraiment ce côté aussi où ce travail parle aux gens, parce que ça leur rappelle un ailleurs, ça leur rappelle le lieu où ils ont grandi. Donc en fait, il y a quelque chose presque décontextualisé et qui parle à tout le monde. Donc oui, au départ, nous, quand on traverse une région, on s'intéresse vraiment aussi aux spécialités, enfin, aux spécialités locales, aux choses qui font le lieu. Mais petit à petit, ce lieu tend presque à disparaître, parce que ça pourrait être n'importe où.
Comme si vous désessentialisiez en fait ce lieu-là, ces territoires et presque les humains qui y vivent. Est-ce que ça va à dire que un homme dans cette salle des fêtes au Mans, il y a quelque chose de très très commun avec un homme dans une salle des fêtes à Marseille ou dans une autre banlieue ?
Quelque part, il y a vraiment ces deux dimensions. Enfin, il y a vraiment la culture du local qui est très présente, mais qui est vraiment présente quand on discute avec les gens. Enfin, mais après, oui, c'est vrai qu'une salle des fêtes du Mans pourrait ressembler à une salle des fêtes de Clermont-Ferrand. Enfin, donc, oui. Parce qu'aussi, c'est des courants. Enfin, par exemple, c'est des courants architecturaux, des choses qu'on peut retrouver. Et c'est pour ça que la notion de série devient importante, parce qu'en traversant toutes ces régions, il y a des choses qu'on retrouve. Qu'on retrouve vraiment d'une région à l'autre. Après, ce qui peut changer, c'est la géographie, c'est la lumière. Surtout, la lumière change vraiment d'une région à l'autre. Et par exemple, moi, je sais que je viens du sud, et la lumière du sud est complètement différente de la région, de l'Atlantique, d'où vient Marie. Voilà. La lumière, c'est vraiment quelque chose de très important.
Une fois, quelqu'un m'avait dit, au fond, vous avez écrit un livre contre l'empaysement. C'est exactement ça. C'est comment un pays n'a de sens d'existence, et même, faut oser le mot, d'identité, qu'en rêvant, qu'en accueillant, qu'en s'ouvrant, et ainsi de suite. Et donc, il y a, quand on le parcourt, ce pays, on parcourt les lieux, on ressent tout de suite, c'est physique. On ressent des espaces, disons, qui sont ouverts, qui vous accueillent, et puis d'autres qui le font pas, qui se ferment. Donc, essayez de comprendre pourquoi ça c'est comme ça, comment ça marche comme ça. Les raisons sont pas des raisons uniquement sociales, politiques, humaines. Il y a aussi des formes de paysages qui sont comme ça, qui créent des appels. On les voit, on a envie d'être un oiseau. Il y en a d'autres, au contraire, on a envie d'être une petite souris et de se cacher. Enfin, et c'est d'une variété, d'une complexité incroyable.
Cette fois, c'est la voix de Jean-Christophe Bailly qu'on invite à notre table, Anouk et Marie, pour parler de ce livre, Le Dépaysement. Alors, on était ici au micro de Caroline Brouet dans la Grande Table en novembre 2015 sur France Culture. Il parle de la question du paysage ouvert ou fermé, d'un paysage lui-même qui ouvre ses portes, qui accueille, qui fait appel d'air. Vous parliez de sensations de lumière très différentes. Est-ce que vous êtes parfois promené sur des paysages qui vous semblaient ne pas être accueillants, ne pas vous accueillir?
Ah bah, assez souvent en fait.
Anouk, oui. Le Marquis.
Moi je trouve oui assez souvent, enfin comme on, parce qu'on photographie pas forcément ce qu'on trouve beau ou ce qui nous appelle esthétiquement, enfin donc il y a aussi cette confrontation avec le paysage, et avec un paysage qui est parfois difficile, enfin et qui n'est pas forcément beau, et qui peut être un paysage un peu délaissé, en ruine, mais qui va devenir un peu intéressant. Enfin, on n'a pas, enfin, Marie.
Ben, sur la question de la lumière, c'est un paysage fermé. Ouais. Moi, je suis toujours étonnée quand je vais, par exemple, dans le sud, notamment quand la première fois que je suis allée à Marseille, pour la lumière. La lumière a une intensité en fait qui moi, sur mon île, dans mon insularité, je n'ai pas en fait.
L'île d'Oléron,
voilà. C'est quelque chose qui me guide vraiment. Et après.
Après, vous êtes aussi deux jeunes femmes qui débarquent en voiture dans des endroits que vous ne connaissez pas, face à des gens que vous ne connaissez pas. Donc vous êtes deux étrangères qui prenez la route et traversez un pays, même si c'est votre pays. Est-ce que vous avez l'impression que cette condition d'étrangère, entre guillemets bien sûr, vous a été renvoyée plusieurs fois?
Oui, mais je pense qu'on fait assez rire les gens en fait, parce que à chaque fois qu'on arrive quelque part... Déjà, quand les gens nous voient prendre des photos, ils comprennent pas ce qu'on prend en photo. C'est là, mais pourquoi vous prenez ça? Enfin, c'est pas beau. Il y a telle église ou tel monument qui est beaucoup plus intéressant. Et du coup, quand on commence à leur expliquer le projet, enfin, ils trouvent ça assez bien, en fait. Ça leur parle. Mais du coup, oui, ils nous regardent un peu avec des grands yeux. Et
comment vous leur expliquez le projet?
On leur explique qu'on traverse la France.
Tout simplement,
qu'on traverse les routes, qu'on cherche, qu'on prend en photo ce qui nous interpelle. Donc il y a vraiment ce côté un peu punctum comme de Barthes, enfin comme on voit quelque chose, hop, ça on ressent et on le photographie, et c'est là où, enfin, c'est vraiment intéressant, parce que les gens vont dire ah bah allez prendre tel bâtiment ou tel belvédère, enfin qui est là-bas, et il y a vraiment aussi du coup ce côté un peu hasard. On planifie jamais nos voyages,
non, jamais.
On fait pas de recherche avant, et c'est vraiment quand cette forme d'errance, enfin pour revenir un peu à Depardon aussi, qui nous guide, et après c'est vraiment la rencontre avec les gens, enfin donc c'est vrai que on arrive un peu comme des étrangères et on repart un peu comme des locales.
Thank you.
Marquis et Marie Boutier, vous êtes toutes les deux presque en train de danser sur la table dans le studio de France Culture cet après-midi parce qu'on a mis J'ai tout oublié du groupe Colombay. Est-ce que vous écoutez de la musique dans cette voiture qui vous mène au travers de la France ?
Tout le temps.
C'est très important pour nous.
La musique, ça fait vraiment partie du projet en fait. On a, faut que ce soit la musique qu'on écoute, on fait des compiles.
Des CD.
Des CD, ouais.
C'était Opel Safira.
La radio aussi, pas mal. Ça peut être France Culture, comme Nostalgie, comme. Mais c'est vrai qu'on a, on a vraiment des CD et chaque voyage a presque son CD.
Quoi. Ouais. Donc,
chaque voyage a sa playlist un peu. Donc là, on a le CD été 2015. Et...
Ouais, il y a le CD Opel, Négative Opel, je crois. Ouais.
Et vous diriez que ça influe vos prises de vue, que ça influe votre façon de regarder le paysage français, les gens que vous rencontrez, les bâtiments.
Bah, souvent, on se balade en fait avec casque aux oreilles, hein, toutes les deux. On se départage.
Même sortie de la voiture alors.
Ouais. On se départage, par exemple, la dernière fois c'était l'Épange sur Vologne, je me souviens.
Dans les Vosges.
Voilà, l'affaire du petit Grégory. Et en fait, on a décidé de partir d'un point. Enfin, à nous qui était à un point A, moi j'étais à un point B.
Et on a tout le temps, tout le temps de la musique, ça fait vraiment partie de la construction du projet. Et donc, c'est soit chacune nos musiques, après, on a aussi des musiques communes. Mm. On a aussi des groupes qu'on écoute tout le temps dans la voiture avant un événement important, comme Tolar, un groupe de Grenoble. Oui. On a un morceau, c'est notre morceau, un peu leitmotiv, avant une expo, avant un accrochage.
Oui, c'est ça qui nous motive et qui fait nous sentir bien, en fait.
Et là, bah, Colombay, qu'on vient d'entendre, c'est. Ça fait écho à notre travail parce qu'il parle beaucoup des routes nationales et même tous les visuels, c'est l'exécution de ville. Enfin, donc c'est vraiment quelque chose d'assez important pour nous.
C'est aussi un groupe grenoblois, si je me trompe, Colombay.
Non.
Ah bon.
Non. C'est un groupe de... Je crois qu'il est à Bruxelles, mais après.
Il habite à Bruxelles, mais je crois qu'il est de Saint-Dizier, en tout cas.
Ouais.
À côté.
Ouais, pas du tout. Alors je me trompe complètement. Mais en tout cas, c'est un groupe, c'est plutôt des jeunes gens. J'ai précisé tout à l'heure que votre projet était né en 2013, presque pile 30 ans après vous, puisqu'il est aussi question dans cette chanson d'une gueule de bois et de quelqu'un qui a tout oublié après avoir beaucoup bu, et qu'il est aussi question de fête dans vos photographies, et de jeunes corps, et de jeunes gens qu'on croise sur ces routes, dans ces bâtiments. À quoi elle ressemble, cette fameuse jeunesse française qui est souvent convoquée par le discours politique et que vous avez pu vous rencontrer avec votre voiture et votre projet.
Sur la gueule de bois, je dirais aussi.
Ouais.
Mais
à quoi elle ressemble ?
À quoi elle ressemble ? Je sais pas trop. C'est vrai que les jeunes, c'est pas forcément ceux qui viennent le plus vers nous. C'est pas ceux vers lesquels on va le plus. Donc, on pourrait parler de la jeunesse autour de nous. On pourrait parler de la jeunesse, enfin d'autres jeunes avec qui on collabore dans nos projets. Mais c'est vrai que quand on part, enfin. On a rencontré peu de jeunes en fait.
Ouais. Parce que qu'ils ne viennent pas vers vous, naturellement c'est une chose, mais vous non plus, vous n'allez pas spécialement vers eux.
On va plus vers les ados. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que.
Ou sinon, on collabore sinon avec les jeunes, on va dire.
Ouais, on collabore avec les jeunes.
On travaille avec eux. Que ça soit pour les. On collabore avec eux pour nos expositions, par exemple. Il y a,
Mais sinon, oui, bah, la jeunesse française qu'on a rencontrée, on la rencontre dans les bars. Donc voilà, mais je n'ai pas vraiment de regard sur... j'ai l'impression qu'elle est un peu commune partout aussi. C'est bête, mais partout où on a aussi toujours ces mêmes choses qu'on avait aussi quand on était adolescent, par exemple. Et traîner sur un banc... à côté d'un scooter, c'est partout. Et quand j'avais 15 ans, c'était ça, et c'est encore la même chose. Donc quelque part, c'est presque rassurant. Elle n'a pas forcément...
C'est vrai, ça vous rassure, vous, que des motifs répétitifs comme traîner à côté d'un scooter sur un banc, ce soit encore le cas en 2016?
Un petit peu, je ne sais pas, parce qu'après, comme avec toutes ces choses comme Internet et tout ça, ça aurait pu complètement changer. Mais non, au final, on voit toujours une canette sur un banc avec son scooter, quoi. Donc ouais, c'est un peu rassurant.
On roule toujours des pelles derrière l'abribus ?
Oui. Je pense que oui.
Écoutez.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
En tout cas, ça vous fait beaucoup rire cette question. 14h50 sur France Culture. Chaque jour, nos discussions se suspendent et on enregistre des émotions, des récits de moments marquants, des points d'intensité dans le parcours. Et c'est pas la chose la plus facile à partager, ces récits-là, encore moins peut-être quand on a à peine 18 ans. Et c'est pourtant l'exercice que nous avons proposé à des lycéens du lycée Sugère à Saint-Denis, avec qui nous avions fait de la radio en novembre dernier. Aujourd'hui, c'est Jody qui nous parle d'un premier cours de danse. On l'écoute.
Quand j'étais petite, j'étais un garçon, on va dire. J'avais pas de côté féminin. Tout ce qui est... Moi, je veux être une maîtresse, c'était pas moi. Maquillage et tout, c'était pas moi non plus. Et ma mère m'avait dit, je vais t'amener de faire de la danse. Quand j'ai vu la salle rose, bon bah, ça m'a pas fait grand-chose et tout. Mais quand j'ai commencé à danser, et qu'il faut avoir une certaine souplesse, une certaine grâce, surtout dans le modern jazz, bah ça, on va dire, c'est là où... C'est comme si je devenais une fille. Ça m'a fait découvrir autre chose et une autre partie de moi que je connaissais pas. Genre la grâce, j'étais pas gracieuse du tout. Je le suis toujours pas, mais ça un peu plus qu'avant. Je suis devenue moins garçon, on va dire. Avant, j'étais affalée tout le temps sur moi. Et là, je sentais que je me redressais. Et ma façon de parler aussi, instinctivement, elle a changé. Et quand je me regardais dans le miroir, bah, mes gestes étaient plus étendus. Enfin, vraiment comme. Vraiment comme quelqu'un de gracieux, en fait. C'était ce que je ressentais et ce que je voyais quand je me regardais. C'était les deux en même temps. Enfin, je suis timide et la danse, ça a débloqué une partie de ma timidité. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est ça que ça a changé en moi, en fait, ma timidité. Je le sens encore un peu, mais moins qu'avant. Donc, j'avais pas réellement de copines. En général, à la danse, on parle. Moi, j'étais toujours dans mon coin, je faisais mes étirements, et puis j'écoutais la prof. Après, j'ai arrêté, et quand j'ai repris, c'était juste comme ça, parce que j'avais envie de reprendre, et que j'en avais marre de danser dans ma chambre, on va dire. Je regardais des films de danse et j'essayais de refaire la même chose qu'eux. Du coup, c'était pas pareil, puisque dans les films de danse, c'est pas du modern jazz qui danse. Le modern jazz, c'est assez classique. Et dans les films, c'était plus du hip-hop, enfin, à l'opposé du modern jazz.
Qu'est-ce que tu trouves de nouveau, justement, dans ce rapport au corps ou même à toi-même, dans le hip-hop et dans la pratique du dancehall?
Il y a 2 ans, j'ai changé d'association, on va dire, pour commencer le hip-hop. Et j'ai rencontré des gens que je connais encore et que je suis toujours, avec qui je passe toutes mes journées, on va dire, qui m'ont apporté beaucoup dans la danse et qui m'ont changé, on va dire. Ils ont réussi à débloquer cette timidité que j'ai en moi. Je suis plus ouverte aux gens. Avant, j'étais fermée. Tout le monde me disait que je me dirais je suis méchante et tout parce que je parlais pas, ou quand tu me parlais je répondais pas tout le temps, mais c'est parce que j'avais un blocage, j'aimais pas parler aux gens, j'étais trop timide. Or que maintenant je parle avec tout le monde et tout, et c'est depuis que j'ai commencé le hip-hop.
Put on your red shoes.
Let's Dance de David Bowie, c'est un titre qui sort de l'album du même nom, Let's Dance. C'est un album qui est paru en 1983. D'aucuns ont jugé réalisé et produit de manière beaucoup plus commerciale que le reste, mais enfin, ça fait quand même danser tout le monde dans ce studio. Évidemment, c'est pour saluer David Bowie, dont on a appris la mort ce matin. Toute la chaîne France Culture rend hommage à l'artiste. Alors ce soir, Mathilde Serrel et Martin Kenéen dans Ping Pong parleront de Bowie, à minima dans un gros journal de la culture, mais aussi demain matin, dès l'aube, Guillaume Erner et plusieurs producteurs de la chaîne proposent une matinale spéciale où chacun se souviendra de son Bowie. Et puis, à noter aussi une émission spéciale dans la dispute autour des critiques musicaux. Ce sera jeudi soir et là, ce sera évidemment son dernier album dont il sera question sur franceculture.fr. Vous retrouvez plein d'archives, plein d'émissions consacrées à David Bowie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Anouk Le Marquis et Marie Boutti, pour parler de votre demi-tour de France. On peut voir merci évidemment toutes ces photographies et ces séries sur le site Demi-Tour de France. Est-ce que c'est un tour qui continue?
Bien sûr que oui.
Il n'est pas prêt de s'arrêter.
Il n'est pas prêt de s'arrêter.
Non. La voiture est garée où?
Elle est juste derrière, juste à côté, ouais. Derrière la maison de la radio. Elle nous attend.
Vous avez mis de la monnaie dans le parc Met, ça rigole pas ici.
Exactement. Oui, c'est bon.
Merci à vous. Et puis merci. Je rappelle que nos premiers invités, Toukadim, on mettra toutes leurs informations sur le site internet franceculture.fr, un site internet où vous pouvez vous abonner au podcast des Nouvelles Vagues pour n'en louper aucune. Un site internet où l'on peut se parler via un formulaire de contact. Chose possible via Twitter ou Facebook. Merci à Romain de Becdelièvre, Alice Ramon, Inès Duperron qui pensent et préparent ces émissions avec moi. Une émission réalisée par Somanina avec aux manettes aujourd'hui Jean-Guilain Neige et au droit d'auteur Victor Button.